VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bienvenue dans cette édition du 10 novembre 2020. Eric Manilakiza en votre compagnie. D'abord, le sommaire. Décès de l'ex-président malien Amadou Toumani Touré. Des milliers d'Ivoiriens fuient vers les pays voisins par crainte de violences post-électorales. En Éthiopie, l'Union africaine appelle à la fin des hostilités dans la région du Tigré. Aux États-Unis, le ministre de la Justice ordonne l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors de la présidentielle. Et dans 10 minutes, l'économie et les sports, juste après le journal. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré, dont le nom est associé à la transition vers la démocratie, mais aussi au début de la tourmente sécuritaire, est décédé dans la nuit dernière en Turquie, où il avait été transféré pour des soins. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Arrivé au pouvoir en 1991, à la suite d'un coup d'État, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré dit ATT a dirigé la transition malienne de 1992 pendant 14 mois. Il passe le témoin le 8 juin 1992 au premier président démocratiquement élu au Mali, Alpha Oumar Konaré. C'est après les 10 ans du président Konaré que le général est devenu le président de la République à la suite des élections générales de 2002. C'est à quelques jours de la fin de son mandat qu'ATT a été renversé par un autre coup d'État en 2012. Il a été obligé de quitter le Mali avant de revenir 5 ans après son exil forcé à Dakar. Tôt ce matin, la famille de l'ancien président ATT annonce son décès en Turquie. Les autorités maliennes sont informées et sont en train d'organiser le rapatriement de son corps. Avant d'être évacué pour Istanbul en Turquie le samedi dernier, ATT a subi une opération du cœur à l'hôpital Luxembourg de Bamako qu'il a créé. C'est après qu'il a été évacué sanitairement. Malheureusement, il est décédé dans la nuit du lundi à mardi. Il faut signaler que le président ATT est l'artisan de plusieurs infrastructures et de projets de développement au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Plus de 8000 personnes ont fui la Côte d'Ivoire vers les pays voisins à raison des violences liées à la présidentielle, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Plus de 7 500 Ivoiriens, dont des enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents, des personnes âgées et des femmes enceintes, ont fui vers le Libéria, a déclaré le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de 500 Ivoiriens sont aussi arrivés au Ghana, en Guinée et au Togo, où ils reçoivent une assistance selon l'agence onusienne. Lundi, de nouvelles violences dans le centre de la Côte d'Ivoire ont fait 9 morts, alors que l'opposition a appelé à une journée de mobilisation. Toujours hier, une personne a été tuée et plusieurs autres blessées dans des affrontements intercommunautaires à Mbato, près de Bongouanou, d'après François Nguetta, adjoint au maire de la localité, précisant que des heurts se poursuivent malgré l'arrivée de renforts des forces de l'ordre. Le président d'une fraction du FPI, Pascal Afingessa, a été arrêté. Le Conseil constitutionnel a validé lundi la réélection d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Ce dernier a appelé à un dialogue avec le chef de l'opposition, l'ancien président Henri Konan-Bédier, pour mettre un terme à la crise.
La CEDEAO a félicité aujourd'hui le président ivoirien Alassane Ouattara pour sa réélection à un troisième mandat. La CEDEAO l'exhorte à tout mettre en œuvre en faveur du rassemblement des Ivoiriens après des violences et le boycott par l'opposition qui refuse de reconnaître la validité du scrutin. Au moins 150 membres et dirigeants de l'opposition tanzanienne ont été arrêtés, a déclaré aujourd'hui la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Elle précise que la plupart de ces hommes politiques ont été libérés, mais 18 d'entre eux seraient toujours en détention. L'opposition avait dénoncé des fraudes massives avant même la publication des résultats de la présidentielle, largement remportée par le président sortant John Magufuli. L'opposition avait appelé à des manifestations. L'Union africaine réclame la fin des hostilités dans la région éthiopienne dissidente du Tigré, où des centaines de personnes, y compris des soldats, fuient les combats et se réfugient au Soudan voisin. Nathalie Barge.
tout en rappelant l'attachement de l'Union africaine à la souveraineté de l'Éthiopie, le chef de la commission de l'organisation, Moussa Faki Mahamat, a appelé à la cessation des hostilités et a demandé aux parties de respecter les droits humains et de s'assurer de la protection des civils. Suivant sa feuille de route depuis le 4 novembre, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a assuré que les opérations se déroulent comme prévu et ne cesse de réaffirmer que l'intervention militaire contre les autorités du Tigré est sur le point d'aboutir. La radio-télévision d'État IBC a fait état de la prise complète d'un aéroport situé à une soixantaine de kilomètres de la ville tigréenne d'Ouméra, frontalière du Soudan et de l'Érythrée. Les Tigréens ont démenti cette information. L'aviation éthiopienne a lancé plusieurs raids sur des positions tigréennes et des combats au sol impliquant de l'artillerie lourde ont été rapportés. 3000 Éthiopiens, dont des soldats, ont traversé la frontière avec le Soudan, selon l'agence soudanaise pour les réfugiés à Kassala, disant que les réfugiés continuent d'affluer. Le HCR a également fait état de centaines de demandeurs d'asile à deux postes frontières de la zone.
Les pourparlers qui rassemblent à Tunis 75 délégués libyens visent à réunifier deux autorités rivales et organiser des élections après quasi une décennie de conflits. Ces délégués se penchent sur l'adoption d'une feuille de route vers des élections. L'hypothèse envisagée est la formation d'un conseil présidentiel composé de 3 membres et d'un gouvernement rassemblant les différents camps. L'avocate libyenne Hanan al-Barassi a été abattue dans sa voiture aujourd'hui en pleine rue à Benghazi, un meurtre qui a suscité une grande émotion dans le pays. Madame Barassi, 46 ans, donnait constamment la parole à des femmes victimes de violences dans des vidéos qu'elle diffusait ensuite sur les réseaux sociaux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre américain de la Justice, Bill Barr, a donné son feu vert hier à l'ouverture d'enquête sur d'éventuelles irrégularités lors de la présidentielle du 3 novembre. Jacques Aristide.
L'attorney général a souligné que cette autorisation adressée aux procureurs fédéraux du pays n'indiquait pas que le ministère de la Justice avait des preuves de l'existence de véritables situations de fraude. Bill Barr écrit dans sa lettre qu'il s'agit d'enquêter sur des allégations substantielles d'irrégularité concernant les votes ou le comptage de bulletins avant la certification des élections dans les juridictions dans certains cas. De telles enquêtes peuvent être menées s'il existe des allégations claires et potentiellement crédibles d'irrégularité qui, si elle était avérée, pourrait potentiellement avoir un impact sur le résultat d'une élection fédérale dans un État, ajoute-t-il. Le responsable du service en charge des crimes électoraux qui supervise les enquêtes pour fraude a fait part de sa décision de quitter son poste après l'annonce du ministre William Barr. Richard Pilger compte toutefois assumer un autre rôle au sein du département de la justice. Les enquêtes sur les fraudes électorales sont normalement du ressort de chaque État qui établit et contrôle ses propres règles électorales. L'équipe de campagne du président sortant Donald Trump mène à des batailles judiciaire dans plusieurs États, remporté sur le fil par Joe Biden, Pennsylvanie et Nevada en tête, pour tenter de contester leurs résultats.
La Cour suprême américaine a entamé aujourd'hui l'examen de la loi sur l'assurance santé de 2010, surnommée Obamacare, que les républicains n'ont jamais cessé de contester. Sa décision est attendue au printemps 2021. L'invalidation totale de la Affordable Care Act retirerait les protections accordées à plus de 130 millions de personnes souffrant d'affections chroniques. Les pays européens ont besoin d'une réponse coordonnée et rapide pour faire face à la menace terroriste, a déclaré Emmanuel Macron à l'issue d'un mini-sommet en visioconférence avec plusieurs dirigeants de l'Union européenne après les attentats en France et en Autriche. Cette visioconférence a été organisée une semaine après l'attentat djihadiste de Vienne et après celui de Nice et la décapitation de Samuel Paty en France en octobre.
L'Espagne a commencé à juger mardi trois hommes soupçonnés d'avoir aidé la cellule djihadiste responsable du double attentat qui avait tué 16 personnes en 2017 à Barcelone et dans une autre ville de Catalogne. Saeb Erekat, l'une des personnalités politiques palestiniennes les plus connues à l'étranger, est décédé aujourd'hui à l'âge de 65 ans après avoir contracté le nouveau coronavirus. Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, est décédé à l'hôpital Radassa de Jérusalem, où il avait été admis le 18 octobre. Sa dépouille a été transférée vers un hôpital de Ramallah, en Cisjordanie occupée, où une cérémonie militaire doit être organisée demain matin. Erekat sera enterré à Jéricho, dans la vallée du Jourdain, où il habitait. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Lyndon.
L'opérateur français Orange a annoncé le lancement commercial du premier réseau de fibres optiques panafricain, baptisé Joliba. Ce réseau unifié de plus de 10 000 km de fibres optiques terrestres va relier 8 pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Nigeria et le Sénégal. Avec Joliba, les populations locales vont pouvoir accéder encore plus facilement à des services de santé ou d'éducation, a souligné le directeur général Afrique et Moyen-Orient d'Orange, Alioune Diaye, qui a chiffré ce projet à quelques centaines de millions d'euros. L'État de Côte d'Ivoire, par le biais de son trésor public, a levé lundi 33 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Selon Financial Afrique, l'objectif visé à travers cette levée de fonds est d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Le remboursement des bons émis se fera le premier jour ouvrable, suivant la date d'échéance fixée au 7 décembre 2020. Annoncée en 2019, la nouvelle Société nationale de réassurance du Cameroun, dénommée Cameroun Re, va bientôt démarrer ses activités avec un capital de 15 milliards de francs CFA. Ce projet est en phase terminale et a atteint l'étape critique de la constitution juridique.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La liste des candidats à la présidence de la Confédération africaine de football s'élargit. Ahmed Yahia, président de la Fédération mauritanienne de football, a décidé de se porter candidat en mars prochain afin de promouvoir le football africain, dit-il sur Twitter. Homme d'affaires dans le secteur de la pêche, cofondateur en 1999 et premier président du FC Noir Dibou, l'un des clubs les plus populaires et les plus titrés de la Mauritanie, Ahmed Yahia a été élu en 2011 à 35 ans à la tête de la Fédération mauritanienne. Membre depuis 2017 du comité exécutif de la CAF, M. Yahia est réputé proche du malgache Ahmad Ahmad, actuel président de la CAF qui brigue un deuxième mandat. Sa candidature s'ajoute aussi à celle de l'Ivoirien Jacques Anouma et du milliardaire sud-africain Patrice Motsepe. Et puis la fenêtre internationale FIFA s'ouvre demain avec sur le continent les matchs de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Derrière le Cameroun, pays hôte de la prochaine CAN, il n'y a qu'une place à prendre et le Cap-Vert et le Rwanda lancent les hostilités de leur groupe à Praia. Les deux comptent 2 points chacun. À suivre aussi, Mauritanie-Burundi, un duel entre deux nations qui ont participé pour la première fois à la CAN en 2019. Pour l'heure, les Mouravitounes sont bien engagés avec 4 points, tandis que les Hirondelles comptent 0 point. Autre match, Guinée-Tchad, Kenya-Comores, Sénégal-Guinée-Bissau et Libye-Guinée-Équatoriale. Cyclisme, et nous prenons la direction du Cameroun, les organisateurs du Grand Prix Chantal Biya ont donné les dates de l'édition 2020 de cette compétition de la petite reine. 10 équipes venues d'Europe et d'Afrique vont parcourir les pistes du Cameroun. Le vieux continent sera représenté par Dukla Banska de la Slovaquie. Sur le continent, les cyclistes arrivent de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Bénin, du Rwanda et du Mali. Le Cameroun, pays hôte, aligne 2 équipes. Selon les organisateurs, 60 coureurs prendront le départ le 18 novembre pour la première étape un critérium dans la ville de Douala. L'arrivée finale est prévue le 22 novembre à Yaoundé. Pour rappel, l'Algérien Azzedine Lagab a remporté l'édition 2019 de la compétition. Ici, aux États-Unis, la saison NBA 2020-2021 débutera le 22 décembre, a confirmé la Ligue nord-américaine de basketball après être parvenue à un accord avec le syndicat des joueurs. Chaque équipe disputera 72 matchs de saison régulière. L'ouverture du marché des transferts a quant à lui été fixée au 20 novembre. Sur le plan financier, la NBA a estimé une possible perte de revenus à hauteur de 40% due à l'absence de billetterie. Les matchs devant jusqu'à nouvel ordre se jouer à huis clos. Conséquence, les deux parties sont tombées d'accord sur un principe de retenue sur salaire des joueurs à hauteur de 10% pour combler les pertes sur plusieurs saisons.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manila-Kiza, pour aborder les dossiers du jour. Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali, est décédé à 72 ans la nuit dernière en Turquie. Il reste aux yeux de nombreux Maliens le militaire qui a mis le pays sur la voie de la démocratie en 1992, après plus de 20 ans de dictature, d'où son surnom de soldat de la démocratie. Il a été à la fin de sa présidence impuissant à contenir les rébellions du nord du pays et sera lui-même renversé par de jeunes militaires. Depuis Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
C'est 6 jours après avoir soufflé sur sa 72e bougie que le président Atete est décédé le mardi 10 novembre 2020 à Istanbul. Et pour les Maliens, c'est une perte cruelle. Amadou Doumbia, juriste.
Par rapport à la mort du président Amadou Toumani Touré, on ne peut dire que inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. C'est vraiment une grande tristesse, un coup très dur pour nous. C'est vrai qu'il a beaucoup fait pour le Mali, mais on a encore besoin de lui. Mais bon, quand Dieu nous l'arrache.
Voilà un monsieur qui s'est beaucoup donné pour ce peuple malien. Il a beaucoup fait, il a beaucoup travaillé. Parmi tous ces présidents qui ont passé au Mali, je pense qu'il est le meilleur. Il est le meilleur, il avait beaucoup d'idées, il avait beaucoup de projets à faire. Il a réalisé pas mal de choses à Bamako, au Mali, l'ensemble du territoire du Mali. Il a réalisé pas mal de travaux. Donc voilà, c'est juste un regret. Mais quand il est rappelé à Dieu, c'est tout à fait normal. Il ne peut que lui faire des bénédictions.
Acteur majeur de la démocratie malienne, Atete a contribué à façonner le visage du Mali moderne avec des projets de routes, des ponts, d'écoles, des centres de santé, d'accès aux logements sociaux et de l'eau potable, sans oublier l'électricité. Issa Kaoudjim, coordinateur de la CEMAS.
Certes, il n'est pas parfait. Amadou, c'est un patriote. Il a beaucoup donné. Il a eu aussi, certes, des choses qui n'ont pas été parfaites. Il a marqué son temps. Il est rentré dans l'histoire du Mali. Les Maliens ont retenu beaucoup de choses de lui, notamment des grands travaux. Mais aussi son entre-gens, sa facilité à communiquer avec le peuple, humble dans ses relations humaines. Donc, nous sommes, comme tout Malien, de tristesse, avec douleur. Nous avons appris le décès du président Amadou Toumani Touré.
Pour bon nombre de Bamako, le président Atete a été le bâtisseur du Mali, car plusieurs infrastructures socio-sanitaires du pays ont été construites pendant son mandat. Moussa Temine, journaliste.
Le président Amadou Toumani Touré, je retiens de l'homme un homme humble, patriote qui aime vraiment son pays. Et surtout, je retiens de l'homme, surtout un patriote qui a vraiment beaucoup contribuer pour le développement et surtout dans la recherche de la paix. Surtout, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, les réalisations comme l'hôpital communal de l'eau de Sévaré et l'hôpital régional de Ségasso, les infrastructures routières. Donc, toutes ces réalisations que l'homme a fait.
Le Mali pleure à Tété en lui rendant des hommages. Et chacun y va de sa manière. Magasuba Awasila, proche de la famille d'Atete.
Il aimait le Mali. Et cet amour, il l'a aussi donné à ses enfants, ses petits-enfants. On peut dire aujourd'hui, lui, il a appris à certaines personnes aussi à aimer le Mali. Dont moi, qui ne suis pas malienne, mais à qui, je peux dire, il m'a transmis l'amour de ce pays. Parce que c'est en côtoyant Atete que j'ai pu m'introduire dans la politique malienne. Et aujourd'hui, moi je perds un papa, mes enfants perdent un grand-père. On ne peut qu'en s'en remettre à Dieu parce que ça fait très mal.
Au nom du peuple malien et en son nom propre, le président de la transition Bandaou a présenté ses condoléances les plus sincères à la veuve du défunt, Madame Touré Lobo Traoré, et à ses enfants. Le gouvernement s'active pour le rapatriement du corps avant l'organisation des obsèques nationales du président Atete. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Sénégal, l'espace politique a été complètement bouleversé par le départ du principal opposant Idrissa Seck vers la majorité présidentielle. Il y a eu d'autres défections au sein de l'opposition qui font dire à certains observateurs qu'une nouvelle configuration politique est inévitable, mais pour d'autres, rien ne devrait vraiment changer malgré ces remous. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Farouche opposant du président Macky Sall, Idrissa Seck était perçu par beaucoup d'observateurs comme le leader naturel de l'opposition, grâce à sa deuxième place lors de la dernière présidentielle. Pourtant, le juriste et analyste politique Rosner Ludovic Alissoutin estime que son arrivée dans la mouvance présidentielle ne devrait pas réellement surprendre les citoyens, encore moins bouleverser l'opposition, puisqu'il n'est pas à son coup d'essai.
Il avait rejoint le président Ablaye Wade au moment où il était peut-être l'homme politique le plus populaire au Sénégal. On lui a pardonné ça. Parce qu'il a été deuxième malgré tout. Maintenant, il revient faire encore une volte-face. Je crois que cette fois, lui-même, il sait qu'on ne lui pardonnera pas ça. Peut-être qu'il en a fini avec la politique. Il veut juste préparer sa retraite en ayant quelques ressources au Conseil économique social, en apportant quelques financements à son parti, et puis c'est fini.
Pour le journaliste et analyste politique Serigne Saliou Gueye, cette nouvelle configuration de l'espace politique montre que le président Macky Sall est impitoyable face à ses adversaires. Pour lui, le président Sall est parvenu à mettre dans sa poche les partis classiques tout en utilisant la machine judiciaire pour broyer ceux qui voulaient lui tenir tête.
C'est une bête politique. Et vous savez, depuis son discours de Kaffrine, quand il disait « je vais réduire l'opposition » à sa plus simple expression, et il est en train de le faire. Il est parvenu à mettre dans sa poche les deux principaux partis sociaux-démocrates de ce pays-là, l'AFP et le PS. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a déstabilisé complètement le PDS en utilisant la machine judiciaire. Karim Wade a été mis en prison. L'autre membre dissident, bien sûr, du PSK, Khalifa Sall aussi, il a utilisé la machine judiciaire pour le neutraliser complètement.
Alors, ce nouveau coup politique du président Macky Sall va-t-il affaiblir l'opposition? La réponse est non pour l'analyste politique Rosner Ludovic Alissoutin.
Quelqu'un qui ne s'opposait pas vraiment, s'il quitte l'opposition pour aller dans le gouvernement, ça ne change absolument rien. Et tout le monde savait que l'opposition aussi au Sénégal aujourd'hui, si ce n'est pas Guy-Marie Sagna, c'est son coup. Le reste ne dit rien. Même le PDS ne réagit plus. Maintenant, ils ont peut-être raison. Mais il n'y a que son coup et une partie de la société civile qu'on entend. Donc, il dit ne s'opposez pas. Et vous avez vu qu'il était silencieux depuis qu'il a perdu les élections. Donc, s'il va au pouvoir, ça change quoi? Absolument rien.
Le journaliste et analyste politique Serigne Saliou Gueye pense, quant à lui, qu'avec le départ d'Idrissa Seck, l'opposition est amputée d'une force réelle et il y aura forcément une nouvelle configuration autour d'Ousmane Sonko.
Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, le champ de l'opposition va être dirigé, on le veuille ou non, par Ousmane Sonko. Maintenant, quelles sont aussi les autres forces qui sont en présence dans cette opposition-là? Il y a Tahou Sénégal de Khalifa Sall. Il y a l'équation du PDS. Le PDS, c'est la première force de l'opposition parlementaire. Mais le mal du PDS, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en but à un problème de leadership. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le PDS aussi a du mal à s'affirmer sur le plan politique.
L'opposition sénégalaise est de plus en plus fragmentée et sa pression principale figure Ousmane Sonko a quitté la coalition qui l'a porté à la troisième place de la présidentielle suite à une audience secrète entre un de ses principaux alliés, le président Macky Sall. Ce dernier continue ainsi à déstabiliser l'opposition avec des coups d'éclat comme l'alliance avec Idrissa Seck et des coups bas comme l'audience avec Boubacar Camara qui était jusque-là une figure phare de la coalition Jotna de Ousmane Sonko. Serina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Les récentes campagnes de vaccination des enfants sont au centre d'une controverse au Cameroun. Dans un contexte marqué par le Covid-19, plusieurs parents boudent la campagne de vaccination des enfants. L'opinion publique, l'Église catholique, l'Ordre des médecins et le ministère de la Santé ne parlent pas le même langage au sujet de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus et la poliomyélite. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jouluntap.
J'ai dit que les enfants qui sont dans cette école seront vaccinés. Votre enfant ne sera pas vacciné, vous le gardez chez vous.
La scène s'est déroulée le mois dernier. dans l'enceinte d'une école primaire à Douala. Une violente altercation a opposé un agent vaccinateur à une mère opposée à l'administration du vaccin oral contre la poliomyélite à son enfant. Une nouvelle campagne de vaccination contre la poliovirus circulant de type 2 est en cours. Elle rencontre également une résistance sur le terrain. La campagne qui s'achève le 22 novembre prochain concerne les enfants âgés de 0 à 5 ans. Professeur Tétanier Ekoué, président de la Commission nationale de certification de l'éradication de la poliomyélite.
Il y a des églises qui s'acharnent à convaincre leurs fidèles de ne pas accepter la vaccination. C'est un phénomène que nous déplorons. Il est très probablement lié à l'action pernicieuse de ce qu'on appelle les groupes anti-vaccination. Extrêmement bien structurés, extrêmement bien financés.
Dans les réseaux sociaux, de nombreux parents camerounais sont allergiques à certaines campagnes de vaccination des enfants. Celles en faveur de près de 400 000 jeunes filles âgées de 9 à 14 ans pour les prévenir du cancer du col de l'utérus et les infections génitales liées au papillomavirus humain fait encore des vagues.
Il y a assez de rumeurs. On nous dit qu'il y aura des conséquences après, comme la stérilité. Ça va freiner beaucoup de choses et du coup, c'est pas facile d'accepter.
Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas quelle portée ça aura sur l'organisme humain.
La position du clergé catholique a davantage contribué à renforcer cette méfiance. En effet, les diocèses d'Obala, dans le nord de Yaoundé, et de Nkonsamba, dans le sud de Douala, ont interdit jusqu'en nouvel ordre la vaccination des jeunes filles qui fréquentent les chapelles, établissements scolaires et centres de santé de leur territoire ecclésiastique. L'Ordre national des médecins du Cameroun s'est dit étonné par une décision, je cite, manifestement inspirée d'informations glanées ça et là dans les réseaux sociaux ou alors de notions scientifiques mal assimilées, fin de citation. Pour tenter de dissiper les malentendus, les archevêques et évêques de l'Église catholique réunis à Yaoundé du 3 au 6 novembre 2020 ont été imprégnés sur les enjeux du vaccin contre le cancer du col de l'utérus au Cameroun par une délégation venue du ministère de la Santé publique. Une polémique qui a fait réagir le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda.
Nous sommes en train simplement d'implémenter un plan d'immunisation de nos compatriotes pour qu'on n'ait pas à subir les effets.
D'après le programme élargi de vaccination, seuls 76% des enfants âgés de 0 à 5 ans ont pu être vaccinés contre la polio au cours de la dernière campagne de vaccination. Ce pourcentage est encore insuffisant. Il faut absolument atteindre le cap de 90%, souligne les experts de santé qui préconisent en outre l'intensification de la sensibilisation des populations pour élaguer les appréhensions sur les vaccins au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Congo-Brazzaville, plusieurs personnes ont également réagi aux élections américaines et salué l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Les acteurs politiques, quant à eux, invitent l'État à s'inspirer de ce scrutin américain pour mieux organiser l'élection présidentielle de 2021. Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Dans les rues de Brazzaville, la population a diversement réagi à ces élections américaines.
Trump, qui était assez méprisant à l'égard de l'Afrique, en qualifiant les pays africains de pays de merde, il n'y a d'ailleurs jamais mis pied. Bon, c'est peut-être un ouf de soulagement.
En 4 ans, il est venu à la Maison Blanche et a voulu à la limite mettre l'Amérique de côté sur les grandes décisions du monde. Mais je pense que les Américains n'ont pas voulu sa façon de faire. L'échec de Trump, c'est la conséquence d'un vote sanction.
Kamala Harris, qui est la première femme à accéder donc à la vice-présidence, c'est une très bonne chose. Les Américains, je suis sûr, ils attendent énormément de cette équipe.
Le politologue Constant Ibarapeya trouve à dire sur le contentieux électoral aux États-Unis.
Ils l'ont fait avec une véritable chirurgie, pas de la violence. On a créé des mécanismes du point de vue électoral qui ont fait que le président Trump ne pouvait pas s'en sortir. Je prends pour exemple le vote par correspondance. C'est un élément qui lui a été fatal. Bon, la fraude n'est pas une spécificité africaine. Moi, je n'ai pas compris pourquoi, dès lors que le président Trump a parlé du contentieux contentieux électoral, les gens ont crié au scandale alors que c'était un principe sacro-saint.
Les acteurs politiques congolais trouvent de nombreuses leçons à tirer de ces élections. Pour l'ancien ministre Alain Akwala, une fois de plus, les États-Unis ont prouvé la solidité de leur démocratie.
L'Amérique a démontré au monde qu'elle possède des institutions extrêmement fortes. Alors maintenant, le président Biden est élu. Ce que j'aimerais souligner, c'est son discours de réunification, d'apaisement. Mais en même temps, the American dream, le rêve américain, semble encore plus fort que jamais.
Dans l'ensemble, les Congolais saluent l'élection de Joe Biden et espèrent voir le nouveau président américain plus proche de l'Afrique et du Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Eric Manilakiza. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. À très bientôt et bon courage.